Voyons maintenant la deuxième partie, préparer la réunion. Nous allons prendre ensemble l'option 1, qui est le fait que vous vous chargez vous-même de la préparation de la réunion. Nous en venons maintenant à l'action 9, qui est établir l'ordre du jour de la réunion. Donc il s'agit de déterminer chacun des temps qui se succéderont pendant la réunion. Un exemple, vous pouvez avoir dans une réunion un enchaînement des temps suivants. D'abord, un temps d'échange d'informations pour faire connaissance. Puis un temps de présentation d'un problème par un participant. Puis un temps de recherche d'options et enfin un temps de décision. Donc, en fonction de la situation, des objectifs spécifiques de la réunion et du lien entre la réunion et chacune des actions qui la précèdent et qui la suivent, vous avez à définir quels sont les éléments d'ordre du jour qui sont pertinents pour atteindre les objectifs. L'action 10, c'est déterminer les objectifs spécifiques de chacun de ces temps définis. Si je reprends l'exemple précédent, premier temps, temps d'échange d'informations pour faire connaissance. Plus précisément, de façon plus spécifique, qu'est-ce que vous donnez comme objectif spécifique à ce temps-là ? Action 11, définir la liste des participants à la réunion. En la matière, vous avez trois choses à faire. La première chose, c'est déterminer les personnes. C'est-à-dire qui va participer à la réunion. Et les raisons de la présence de chacun doivent pouvoir être clairement expliquées. Idem pour l'absence de certains. Par exemple, si vous décidez de réunir tous vos chefs de service et si un membre du conseil d'administration participe à cette réunion, il sera nécessaire d'expliquer la raison de sa présence. Et à l'opposé, si vous n'avez pas convié l'un de vos chefs de service, il sera aussi nécessaire d'en expliquer la raison. Deuxième élément à déterminer, le rôle de chacun. Il est donc nécessaire de présenter précisément ce qui est attendu de chacun des participants. Cela peut être, par exemple, de faire un exposé, d'obtenir des informations, de proposer des options. Cela peut entraîner la participation d'une personne à une partie simplement de la réunion, et pas forcément la totalité. Et la cohérence, par exemple, de la participation de telle ou telle personne et de sa participation sur l'ensemble de la durée de la réunion ou sur une partie, est liée directement à ce travail de définition de liste de participants et de rôles. Et tout ça est en cohérence avec les objectifs définis. Troisième élément, c'est déterminer ce que chacun va faire pour préparer la réunion. Et ce dernier point aussi est évidemment conditionné à l'objectif et à l'organisation de la réunion, ainsi qu'au rôle qu'aura chaque personne. Dans le cadre de la préparation de la réunion, je vous propose que nous nous arrêtions quelques instants sur un rôle particulier, qui est le rôle de l'animateur. Et c'est l'objet de l'action 12, définissez la mission de l'animateur. Je vais vous présenter mon point de vue en la matière. Pour moi, l'animateur n'est en aucun cas garant de l'atteinte des objectifs de la réunion. L'animateur a uniquement deux objectifs. Le premier, c'est de faciliter le processus. Et le deuxième, c'est d'être gardien des règles qui ont été définies et acceptées par le groupe. Donc, si lors d'une réunion, les participants n'atteignent pas l'objectif qui était fixé au départ, la responsabilité de l'animateur ne peut pas être mise en cause. Sauf dans trois cas. Le premier cas, c'est s'il n'a pas été en mesure de proposer un processus de fonctionnement du groupe adapté à la situation, et on verra tout à l'heure différents types de processus en fonction de différents types de situations. Le deuxième cas, c'est s'il n'est pas intervenu lorsque l'une des règles définies par le groupe était enfreinte par un participant. Et le troisième cas, c'est s'il s'est égaré dans un mode de fonctionnement qui n'était pas celui qui avait été validé par le groupe. Et nous verrons des éléments sur ce troisième cas dans la partie suivante, la conduite de la réunion. Action 13, déterminer la ou les personnes qui animeront la réunion. Je vais vous donner mes critères de choix d'un animateur. Le premier critère, c'est quelqu'un qui connaît les techniques d'animation. Le deuxième critère, c'est quelqu'un qui n'est pas fortement impliqué par rapport aux thèmes qui sont abordés. Et le troisième critère, c'est quelqu'un qui est perçu comme neutre par les participants. Et je voudrais qu'on aborde le cas du leader animateur. Le constat que je fais, c'est que dans la majorité des organisations, il est de tradition que le responsable hiérarchique soit aussi l'animateur des réunions lorsqu'elles concernent son équipe. Et ce choix automatique entraîne, à mon avis, trois types de difficultés. La première difficulté, c'est la confusion des rôles. Un exemple, lorsque le leader, animateur, recadre un participant bavard. Le fait-il en tant qu'animateur qui fait respecter l'une des règles définies par le groupe, ou le fait-il en tant que supérieur qui va juger l'intervention de son collaborateur déplacée? Et la même question se pose aux participants lorsque le leader animateur propose un fonctionnement. Quand il dit « je pense que nous avons assez échangé sur ce point et je propose donc que nous passions au point suivant ». S'exprime-t-il en tant qu'animateur ou en tant que patron? Et ce risque de confusion peut générer dans l'esprit des participants de l'insécurité. Et cette insécurité peut se traduire par différents types de dysfonctionnements. Le premier, c'est le retrait. Je ne dis rien parce que je ne veux pas prendre le risque de déplaire au patron. Le deuxième, c'est la soumission, c'est-à-dire je vais dans le sens du leader animateur pour lui plaire ou pour ne pas le mettre en difficulté, même si je pense qu'objectivement, d'autres façons de conduire la réunion auraient été ou seraient plus efficaces. Et le troisième dysfonctionnement, c'est la rébellion. Donc je vais entrer dans une attitude d'opposition systématique. Et c'est ma façon de lutter contre cette confusion des rôles dans laquelle je perçois une tentative de manipulation. Donc la première difficulté du leader animateur, c'est la confusion des rôles. La deuxième difficulté, c'est une difficulté à gérer la complexité. En effet, pendant la réunion, le leader devra intégrer des informations, il devra en donner, il devra réfléchir, définir sa position, intervenir. Cela nécessite qu'il soit particulièrement attentif et concentré sur son rôle de leader. Par ailleurs, animer nécessite aussi une attention importante et une réelle concentration et une bonne anticipation du processus. Est-il réaliste de vouloir tenir simultanément ces deux rôles complexes? Une troisième difficulté, c'est ce que j'appelle la collision entre guillemets des objectifs. Dans une réunion, les objectifs du responsable et ceux de l'animateur ne sont pas les mêmes. Ils peuvent parfois même être antagonistes. Prenons un exemple. Imaginons la situation suivante. Une réunion pour réfléchir à une réorganisation du service liée à un changement dans l'environnement. Ce changement génère une peur importante chez les membres de l'équipe. Par contre, le leader, lui, n'est pas inquiet pour l'avenir de son équipe car il a des informations rassurantes qu'eux n'ont pas. Il a une autre vision, plus large. L'objectif prioritaire de l'animateur est de faciliter le processus et de permettre à chacun d'être aussi productif que possible. Donc, pour l'animateur, il est primordial que les membres de l'équipe puissent exprimer leurs craintes. Donc, le premier objectif de l'animateur sera de permettre, voire de faciliter cette expression. Par contre, concernant le leader, son objectif prioritaire est d'avancer rapidement dans la réorganisation de l'équipe. Et si le leader est aussi l'animateur, comment va-t-il gérer ces objectifs qui sont contradictoires dans l'instant? Et les nombreuses observations que j'ai faites de situations de ce type me permettent de prévoir quasi à coup sûr ce qui va se passer. L'objectif du leader prendra le pas sur celui de l'animateur. Et donc, dans cet exemple, le leader animateur aura tendance, sans même s'en rendre compte, à raccourcir le temps d'expression des craintes de ses collaborateurs. Et les conséquences de ces tentatives de raccourcissement sur ces derniers risquent d'être difficiles à gérer ultérieurement, et ces conséquences, c'est les personnes ne se sentent pas reconnues et ne se sentent pas en sécurité. Alors, pour alimenter votre réflexion sur qui anime, il y a une option que je suggère parfois et qui est intéressante, c'est d'avoir plusieurs animateurs successifs dans une réunion. C'est notamment intéressant lorsque il y a plusieurs thèmes à la réunion et que les différents thèmes ne concernent pas directement les mêmes personnes. Et donc, Il s'agit de changer d'animateur au fur et à mesure que l'on change de thème, de telle façon que l'animateur soit toujours quelqu'un qui n'est pas directement, de façon très importante, impliqué par le thème qui est débattu. Les avantages, c'est que on respecte la règle de non-application directe et de neutralité de l'animateur. Il y a un autre avantage, c'est le fait que chacun puisse être animateur à tour de rôle, conduit les participants, lorsqu'ils ne sont pas animateurs, à être beaucoup plus spontanément respectueux des règles de fonctionnement de la réunion et à être plus aidant vis-à-vis de l'animateur, parce qu'ils savent que ça va être leur tour. Alors, si le patron n'est pas l'animateur, il doit indiquer clairement aux participants qu'il accepte les règles de fonctionnement du groupe. Action 14. Définissez la durée de la réunion. Pour cela, je vous suggère de reprendre la liste des différents temps prévus pour la réunion, puis vous estimez la durée probable de chacun de ces temps. Et attention, cette liste doit impérativement comporter trois temps. Le premier temps est un temps de démarrage, présentation de l'animateur et des participants, et c'est un temps où l'on fixe le cadre et où on le fait valider par le groupe. Un deuxième temps qui doit être impérativement pris en compte, ce sont les temps de pause, environ 15 minutes toutes les 2 heures. Et un troisième temps, c'est un temps de conclusion et de construction de la suite à donner à la réunion. Et quelle que soit la réunion, je vous suggère d'ajouter un objectif complémentaire. C'est de terminer la réunion au moins 15 minutes avant l'heure qui était prévue. C'est une excellente façon de la faire particulièrement appréciée par l'ensemble des participants. Et donc pour cela, un système très simple, c'est de prendre au moins 30 minutes de marche sur le planning que vous prévoyez. Action 15, définissez les dates de la réunion. Ces dates doivent être réalistes par rapport à deux éléments. D'une part, le temps de préparation nécessaire aux différents participants en fonction de leur rôle respectif. Et d'autre part, la gestion de l'emploi du temps des personnes. Action 16. Organiser les éléments matériels. Les salles, les moyens, les repas, hébergement, par exemple. Action 17. Faites valider les points ci-dessus, c'est-à-dire tous les points jusqu'à l'étape 16, par chaque participant. Et pour cela, vous avez deux options possibles en fonction de leur rôle. Pour les participants ayant un rôle spécifique, je vous suggère un entretien préalable, direct ou par téléphone. Pour les autres participants, ça peut être fait par courrier, qui est le courrier d'invitation à la réunion. Action 18, préparer et adresser le courrier d'invitation à la réunion. Je vous donne des exemples d'informations qui, de mon point de vue, doivent être mentionnées dans ce courrier, de façon précise. Le contexte, les objectifs de la réunion, l'ordre du jour, les participants, le rôle de chacun, les dates et durées, les éléments d'organisation matérielle, les coordonnées des personnes chargées de préparer et d'animer la réunion, et la procédure à suivre si un participant rencontre une difficulté avec l'un des éléments ci-dessus de la liste. Il s'agit par exemple d'indiquer qui il doit contacter pour gérer cette difficulté. En prenant en compte tous ces éléments de préparation et en les prenant en compte de façon précise et structurée telle que je vous les ai présentés, vous êtes en train de mettre en place une préparation qui va à la fois être efficace par rapport aux objectifs spécifiques de la réunion, mais aussi une préparation qui va augmenter de façon très importante la probabilité que chacun des participants ait satisfaction de ses besoins. Donc avant même que la réunion ne commence, vous avez déjà réuni un certain nombre d'éléments permettant à cette réunion d'être particulièrement efficace.